Épître de Jude. Résumé des réunions d'études de Paris 1946. Paru dans le Messager évangélique de 1964. Versets 12 à 25.
Ceux-ci, ils sont des taches dans vos agapes, faisant des festins avec vous sans crainte, se repaissant eux-mêmes, nus et sans eau, emportés par les vents, arbres d'automne sans fruits, deux fois morts, déracinés. Vagues impétueuses de la mer jetant l'écume de leurs infamies, étoiles errantes à qui l'obscurité des ténèbres est réservée pour toujours.
Maintenant, Jude prend quelques figures dont chacune donne un côté de la manière d'être de ces hommes qui s'introduisent au milieu des chrétiens. Ceux-ci, en contraste avec les fidèles,
ils sont des taches dans vos agapes.
Cette première figure est relative au repas d'amour fraternel que les saints prenaient ensemble. La joie d'appartenir au Seigneur remplissait leur cœur. Sa personne était l'occupation et le bonheur de tous. L'amour présidait à ces agapes sous le regard de Dieu, dans l'amour pour le Seigneur et l'amour entre frères. L'apôtre dit « Ceux-là viennent à vous, mais ce sont des taches. » Ils font contraste, et cela de plusieurs manières. D'abord, celui qui n'est que professant et n'a pas la vie de Dieu est déjà une tache par nature. Un mort avec des vivants, cela ne va pas ensemble. Puis leur caractère les démasque. Il est dit «
Ils font des festins avec vous. »
Ils n'ont aucun scrupule. Ils prennent facilement le patois de Canaan sur leurs lèvres, mais en réalité ils ne savent pas prononcer le langage du vrai croyant. Enfin, ils sont occupés d'eux, ils se repaissent eux-mêmes. Tandis que, dans ces repas d'affection fraternelle, l'un pense à l'autre, a soin de l'autre, matériellement et spirituellement, ceux-là pensent à eux en égoïste. C'est le moi, la chair, tout simplement. On trouve la même figure dans 2 Pierre 2, verset 13.
Mais ceux-ci, des taches et des souillures, s'abandonnant aux délices de leur propre tromperie, tout en faisant des festins avec vous.
Ces hommes sont évidemment des taches aux yeux de Dieu, mais il devrait y avoir, chez les vrais croyants, assez de discernement pour les reconnaître. Une tache est manifestée par la lumière, de sorte que ces étrangers sont manifestés comme tels pour ceux qui vivent dans la lumière. Avec du discernement spirituel, cela se verrait tout de suite. Au début des actes, la moindre tache n'aurait pas duré. Alors même qu'il s'agissait de vrais croyants, un écart était mis en évidence tout de suite. Aujourd'hui, parce que nous sommes, pour ainsi dire, noyés dans une masse dite chrétienne, nous avons à prendre garde précisément à cela. C'est un appel qui correspond à l'enseignement de toute l'Écriture vis-à-vis des croyants de tous les temps. Si nous ne connaissons plus guère les agapes au sens propre du mot, par la grâce de Dieu nous connaissons un peu la communion fraternelle, les joies que les saints goûtaient dans ces agapes, de sorte que l'application morale demeure. Les joies du culte, si nous les réalisons, sont même supérieures à celles de ces agapes. Nous pensons à ce début de la première épître de Jean.
Notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, afin que votre joie soit accomplie.
Nous sommes arrachés à nous-mêmes, et l'Esprit produit l'unité en nous nourrissant de Christ. L'ennemi cherche à gâter le plus possible même des agapes, à enlever l'amour du Seigneur et, selon le Seigneur, entre les saints, pour en faire simplement de la fraternité, quelque chose que l'homme naturel peut imiter. Et cela a un tout autre caractère. L'épître de Jude ne traite pas ces questions du point de vue ecclésiastique, mais du point de vue moral. Nous trouvons ailleurs les enseignements relatifs à la manière dont, ecclésiastiquement, c'est-à-dire en rapport avec l'assemblée, les saints ont à se comporter. Ici, c'est le côté moral et la ruine morale. D'autres épîtres nous apprennent que les vrais chrétiens n'ont pas à prendre leur parti du mal. Il ne s'agit pas de l'ôter du monde, mais de s'en séparer. Quelque rapide que soit l'avance vers l'apostasie, la séparation du mal est un devoir absolu pour le chrétien et pour l'assemblée. Paul, en particulier, nous instruit sur la discipline qui conditionne l'existence pratique de cette dernière. Les agapes sont l'image de la communion, joie commune, amour fraternel alimenté par l'amour de Dieu. Tel est le sens et la valeur de ces agapes. Ceux qui sont des tâches n'ont pas de vraie communion avec les saints. Il n'y a pas, il ne peut pas y avoir de communion entre les ténèbres et la lumière. Ces considérations expliquent que les vrais croyants auront toujours l'air d'être intransigeants, mais c'est une question de nature. On nous dit quelquefois « il ne faut pas être trop difficile ». Mais nous devons être aussi difficiles que Dieu. C'est une exigence qui n'est pas humaine. Mais cette exigence est celle de l'amour. Elle est à l'opposé de la dureté de cœur qui se cache sous le pharisaïsme, Marc 3, verset 5, et elle doit se montrer telle, la grâce unie à la vérité. Marc 3, verset 5,
et les ayant regardés alentour avec colère, étant attristés de l'endurcissement de leur cœur.
On est heureux de penser au moment où l'on jouira de l'agape éternelle. Lorsque nous serons avec le Seigneur, notre bonheur sera la communion avec lui et avec les saints. Mais ces hommes-là n'ont d'autre souci qu'eux-mêmes, alors que la vie divine a justement cet effet de mettre le moi de côté et d'introduire la communion avec le Seigneur et avec les objets de son amour. C'est pourquoi Dieu fait le nécessaire pour que les saints soient délivrés du moi que nous cultivons si facilement. La vigilance relativement à ces tâches s'exerce non seulement à l'égard des éléments qui n'ont pas la vie, mais à l'égard de tous ceux qui pourraient dissoudre le témoignage par une influence charnelle ou mondaine. Dans le verset de Pierre déjà cité, il est dit
« des taches et des souillures ».
Nous avons à nous garder de tout ce qui est une souillure, parce qu'un vrai chrétien peut conserver des souillures et par conséquent faire œuvre de corruption. Nous répétons que l'Assemblée n'est plus une sauvegarde absolue comme elle a pu l'être au commencement, quand la présence des apôtres était une garantie et qu'il y avait puissance et sainteté. Toutefois, même aujourd'hui, l'Assemblée peut avoir ce rôle protecteur dans la mesure où elle est exercée pour être fidèle. Mais du jour où elle se prête à un fléchissement quelconque, la garantie disparaît. Le sentiment du témoignage et de ce qu'est l'Assemblée doit être de plus en plus sérieux à mesure qu'on avance. C'est le témoignage pour Dieu, pour Christ, contre Satan, contre le monde. On comprend que ce n'est pas une petite chose et qu'il ne faut pas en mesurer la portée à la faible importance, numérique et autre, de ceux qui le composent, caractère qui le rend méprisable aux yeux des hommes. Heureux sommes-nous si nous avons le sentiment de notre néant. C'est la seule place qui nous convienne. Mais puissions-nous croître dans l'intelligence de ce que l'Assemblée est pour Dieu et pour Christ. Ce qui lui donne son importance, ce n'est ni le nombre ni la qualité des personnes qui sont là, mais la présence de Dieu, du Seigneur et du Saint-Esprit. Si nous avons la conscience que le Seigneur est là, nous aurons celle que ses caractères doivent être maintenus. Être assemblés au nom de Jésus demande et implique beaucoup d'exercice parce qu'il faut que la chose corresponde à la personne qui est le centre du rassemblement. Il ne suffit pas de lire et de rappeler Matthieu 18, verset 20, il faut le réaliser. Matthieu 18, verset 20,
« Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. »
Mais le Seigneur peut abandonner un rassemblement, c'est arrivé. Alors, le rassemblement avec son témoignage est pratiquement dissous de ce fait même. La deuxième image, nuée sans eau, emportée par les vents, est simple, mais combien expressive. La terre a besoin de pluie. Que faut-il pour qu'elle soit abreuvée? Un nuage contenant de l'eau. Or, voici des hommes en contact avec des âmes qui ont des besoins. Ils ont l'apparence et la prétention de porter de l'eau, mais, hélas, ils n'ont jamais été à la source pour eux-mêmes, et par conséquent, ils ne pourront pas abreuver les autres.
Emportés par les vents.
Rien de stable. Il ne faut pas aller loin pour en trouver des applications, mais ne manquons pas de nous l'appliquer aussi à nous, parce qu'il peut nous arriver de revêtir ce caractère de nuée sans eau. Il faut puiser d'abord pour pouvoir rafraîchir. Il faut avoir bu une fois d'abord pour soi-même et boire toujours.
Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre.
Sinon, les mots que l'on prononce sont secs. Le Seigneur était toujours prêt à abreuver. La Samaritaine l'a su. Un service confié à l'Assemblée nous est présenté à ce sujet à la fin de l'Apocalypse.
Que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne gratuitement de l'eau de la vie.
Combien de personnes parlent des choses de Dieu, parlent du Seigneur sans que les âmes innombrables auxquelles elles s'adressent reçoivent aucune bénédiction. Heureusement, Dieu s'est arrosé sans se servir de personne quand il le veut. Mais combien nous avons à désirer d'être le moyen d'apporter à d'autres l'eau vivifiante dont nous buvons nous-mêmes. Quel précieux service et quelle responsabilité. Puis vient la troisième figure.
Arbre d'automne, sans fruits, deux fois mort, déraciné.
Si c'était au printemps, on pourrait espérer du fruit. Mais ici, la saison est arrivée où le fruit devrait être manifesté et il n'y en a pas. Pourquoi, alors que le Seigneur dit
« En ceci, mon Père est glorifié, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. »
C'est parce que
« Séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. »
Ces pauvres âmes n'ont jamais été en contact avec le Seigneur. Elles ne sont que du bois mort. Si, au printemps, il y a eu une certaine apparence de profession, maintenant que le temps est révolu, la preuve est faite que la vie n'y est pas. Deux fois mort. Ils étaient morts par nature, comme enfants d'Adam, et ils le sont aussi quant à leur profession. Combien c'est triste. Mais la grâce de Dieu nous a donné de connaître autre chose que ces âmes-là qui enseignent et qui n'ont jamais bu à la source. Quelle grâce d'avoir été amené là où Dieu fait son œuvre. Ceux-ci sont encore comparés aux
vagues impétueuses de la mer, jetant l'écume de leurs infamies.
Ce sont des personnes qui ne sont pas assises sur le roc. Les vagues caractérisent l'agitation. Quand la mer est agitée, les vagues viennent se briser sur le récif. Ces cœurs qui n'ont jamais su ce qu'est l'amour du Sauveur et qui n'ont jamais, hélas, goûté pour eux-mêmes combien il fait bon de connaître le Seigneur Jésus, n'ont pas la paix. Ils n'ont aucune ressemblance avec Marie qui, dans la tranquillité, était assise aux pieds de Jésus. Ils ont bien de l'activité en apparence, mais c'est une activité charnelle. Le résultat ne peut être que la mort pour eux et pour ceux qui les écoutent. Dans Ésaïe 57, verset 20, on lit
« Mais les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut se tenir tranquille, et dont les eaux jettent dehors la vase et la boue. Il n'y a pas de paix, dit mon Dieu, pour les méchants. »
Un second trait de cette image est que l'activité de tels gens se traduit par du mal. Ils rejettent dehors la vase et la boue. Ils jettent l'écume de leurs infamies. L'absence de la connaissance de Dieu entraîne fatalement l'instabilité morale, l'agitation, le trouble, et puis un moment ou l'autre est d'une façon ou d'une autre du mal. La profession chrétienne ne protège pas du mal. Il faut la foi pour pouvoir démasquer de tels gens. L'homme naturel se laisse volontiers influencer par ce qu'ils disent, tandis que la foi sait bien discerner ce qu'ils sont. Il est humiliant de penser que, parmi les vrais chrétiens, aient pu se glisser de telles personnes. Nous nous sommes endormis, et l'ennemi a semé l'ivraie. Il faut que nous sachions discerner ce mélange qui existe dans la profession chrétienne. La parole montre que la foi a ce discernement. C'est ce que nous trouvons dans la deuxième épître à Timothée.
Qu'il se retire de l'iniquité quiconque prononce le nom du Seigneur.
Et non seulement elle peut discerner l'iniquité, mais elle peut aller
avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur.
Dans le système chrétien où nous nous mouvons, ne trouve-t-on pas des conducteurs qui se laissent influencer par tous les vents politiques ou religieux, manquant de cette assise que donne la connaissance de Dieu, qui ne prennent pas le temps d'écouter et d'apprendre, qui veulent tout de suite enseigner et ne restent pas à l'école de Dieu parce qu'ils n'ont jamais connu ni Dieu ni son école ? De sorte qu'on est frappé du vide qui caractérise la masse des enseignements donnés dans toute la chrétienté. On en souffre beaucoup, on sent très bien qu'il n'y a pas l'arrosage que la foi désire. La littérature chrétienne est très abondante aujourd'hui, mais elle s'est éloignée de la source. Elle n'arrose pas ou peu. Plus l'on compare ces enseignements avec ce que la parole de Dieu nous donne, le vrai chrétien, celui qui a la vie de Dieu en a vite fait l'expérience, plus on peut demander au Seigneur qu'il nous tienne attachés à sa parole et le bénir de ce qu'il veut nous y tenir. Il importe avant tout que la parole soit lue, car la personne du Seigneur est présentée par la parole. Ne ferions-nous que la lire, tout est là. Notre sauvegarde, c'est ce que Paul écrivait dans 2 Timothée 3, versets 14 à 17.
Mais toi, demeure dans les choses que tu as apprises et dont tu as été pleinement convaincu, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi qui est dans le Christ Jésus.
Et
toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement accompli pour toute bonne œuvre.
Il n'est pas besoin de couper les feuilles de beaucoup de livres, et nous risquons de perdre du temps en le faisant. Ce ne sont pas les qualités extérieures qui font le serviteur. Celui-ci doit présenter Christ et nourrir le troupeau. Quel malheur si nous nous attachons à l'apparence et si nous abandonnons l'essentiel. Quel bonheur lorsqu'un frère présente Christ. Fasse le Seigneur qu'il en soit toujours ainsi. Soyons conservés dans cette heureuse simplicité. Il y aura liberté de l'esprit, arrosage, bénédiction, paix. Dans le dernier tableau, les hommes contre lesquels Jude nous met en garde sont comparés à des
étoiles errantes à qui l'obscurité des ténèbres est réservée pour toujours.
Une étoile émet de la lumière. Elle est placée par Dieu selon un ordre voulu pour luire en un endroit voulu. Ici, hélas, il n'y a que ténèbres. Elles sont errantes. On ne peut pas se fier à leur position. Elles changent, et moralement cela dit beaucoup. On trouve cette image dans l'Apocalypse plusieurs fois. Des étoiles tombent, elles ont perdu toute autorité morale. Elles font venir des désordres inouïs, perdent leur caractère et laissent les masses désemparées. Ces chefs religieux, ici, sont tels. Un professant sans vie n'a pas une ligne de conduite suivie, une doctrine suivie. Au cours de sa vie, il a le temps de varier bien des fois. On ne peut donc pas faire fond sur la doctrine et l'exemple qu'il donne. Leurs propres pensées et les circonstances les dirigent, alors qu'un chrétien ne doit être dirigé que par Christ. Un chrétien devrait être comme une étoile à sa place, de position invariable, qu'il s'agisse de la doctrine, de la marche, de la tenue morale, une étoile permanente dans sa lueur. Ces étoiles errantes sont en contraste bien frappant avec ceux dont il est dit
« Considérant l'issue de leur conduite, imitez leur foi. »
Voilà des étoiles qui sont restées à leur place. Cela fait penser à Hébreux 11, où une pléiade d'étoiles brille, chacune à sa place, d'un éclat céleste et divin. Dans Philippiens 2, verset 15, il est dit que les croyants reluisent comme des luminaires parmi une génération tortue et perverse. Philippiens 2, verset 15
« Afin que vous soyez sans reproches et purs, des enfants de Dieu irréprochables, au milieu d'une génération tortue et perverse, parmi laquelle vous reluisez comme des luminaires dans le monde. »
Et dans Éphésiens 5, verset 8,
« Vous êtes lumière dans le Seigneur. »
Prions pour que ce caractère ait la fixité désirable en chacun de nous, et que nous ne soyons pas un feu intermittent, ni errant. Cela rappelle aussi les sept étoiles des sept assemblées. Les sept étoiles sont les sept anges, chaque étoile ayant sa responsabilité propre dans l'assemblée correspondante. Si dans l'une des assemblées l'étoile est errante, c'est à elle que le Seigneur s'adressera en premier lieu, parce qu'il parle aux anges des assemblées. Et quelle triste fin pour ces étoiles errantes! L'obscurité des ténèbres leur est réservée pour toujours. Point de lumière, tout est ténèbres, et pour toujours. Versets 14 à 16.
Or Hénoc aussi, le septième depuis Adam, a prophétisé de ceci en disant « Voici, le Seigneur est venu au milieu de ses saintes myriades pour exécuter le jugement contre tous et pour convaincre tous les impies d'entre eux de toutes leurs œuvres d'impiété qu'ils ont impiement commises et de toutes les paroles dures que les pécheurs impies ont proférées contre lui. Ceux-ci, ils sont des murmurateurs se plaignant de leur sort, marchant selon leur propre convoitise, tandis que leur bouche prononce d'orgueilleux discours, et admirant les hommes en vue de leur propre profit. »
Les versets 14 à 16 nous donnent une révélation faite à Hénoc. Déjà, de son temps, Dieu lui avait accordé de voir le jugement de ses impies, et il avait prophétisé à ce sujet. Il est frappant qu'il faille arriver à l'avant-dernier livre de la parole de Dieu pour savoir ce que Dieu a révélé en son temps, dès avant le déluge, sur l'homme impie et sur les conséquences de son impiété. L'unité de la parole de Dieu et la puissance de l'Esprit de Dieu brillent ainsi d'un vif éclat. Par l'Esprit, Jude remonte dans le passé jusqu'à Caïn. Par le même Esprit de Dieu, Hénoc avait plongé dans l'avenir. L'un et l'autre n'ont pu écrire et parler que par cette puissance de l'Esprit de Dieu. Nous ne pouvons considérer les Écritures que par le même Esprit. Les pensées de Dieu ne varient pas. Il connaît le mal, il le juge, et son verdict, malgré le temps, n'a pas varié. En contraste avec Noé qui a traversé le jugement, Hénoc a été enlevé au ciel. Cet homme béni, dont l'enlèvement parle à nos cœurs d'une manière particulière, connaissait aussi le jugement qui allait atteindre les hommes impies. Le mal se commet. Quelquefois, il semble que Dieu ne s'en occupe pas parce qu'il patiente. Mais quand l'heure du jugement sonne, on ne peut y échapper. On ne se moque pas de Dieu. Il est dit d'Hénoc qu'il a marché avec Dieu 300 ans. Comme il marchait avec Dieu, il a pu avoir sa pensée. Si nous marchons aussi avec Dieu, nous pourrons connaître sa pensée qu'il nous révèle dans sa parole. Nous sommes arrivés à la veille du jugement qui va fondre sur le monde, quand l'apostasie sera pleinement révélée. Veillons à garder la pensée de Dieu, afin que nous ne soyons pas comme ceux sur qui tombera le jugement. Nous n'aurons aucune excuse à faire valoir si nous ne marchons pas dans les pensées de Dieu. Hénoc vivait alors qu'Adam vivait encore, et Dieu lui a, dès ce moment, révélé la venue du Seigneur. Il a grandement honoré cet homme de plus d'une façon. Mais soyons certains que marcher 300 ans avec Dieu ne devait pas être plus facile à ce moment-là qu'aujourd'hui. Dans Hébreux 11, il est dit
« Par la foi, Hénoc fut enlevé pour qu'il ne vit pas la mort. Il a reçu le témoignage d'avoir plu à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. »
Quel beau témoignage ! Est-ce que cela pourrait être dit de chacun de nous ? C'est une triste histoire que celle de l'homme. Dieu a dû parler de jugement si tôt, et en parler si tard, en parler de tous les temps. La patience de Dieu est bien grande, mais un moment vient où elle prend fin. Il est remarquable qu'Hénoc, dans sa prophétie, ne s'arrête pas au déluge. Il annonce un jugement de la fin. C'est une prophétie qui s'applique au jugement de la chrétienté. Ceux qui seront jugés à la fin seront moralement les mêmes que ceux de tous les temps, et du temps d'Hénoc en particulier. Le jugement commence par la maison de Dieu. C'est solennel. On parle beaucoup de la grâce. Nous en avons besoin. Mais n'oublions pas que Dieu est un Dieu saint et que si le Seigneur est le Sauveur maintenant, c'est le même qui sera le juge. Il est montré ici comme exécutant le jugement. En effet, Dieu ne supportera pas toujours ce qui se passe. Dieu n'est ni sourd, ni aveugle, ni indifférent. Les croyants désirent que ce jour arrive, puisque la terre connaîtra enfin la justice et le repos, et on en a soif même pour la terre.
Car lorsque tes jugements sont sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice.
Ésaïe 26, verset 9. Ils ne l'apprennent pas avant. Hénoc a prophétisé cette scène solennelle du jugement, mais Dieu lui a accordé aussi la grâce de voir le Seigneur au milieu de ses saintes myriades. C'est bien réjouissant parce que si, d'un côté, on voit le mal dans ceux qui font le mal, d'un autre côté, on voit le travail de Dieu et ceux qu'il aura recueillis et qui accompagneront le Seigneur. S'il y a une telle séparation entre les deux classes, nous devons avoir le désir de maintenir cette séparation morale dans le temps présent. Nous serons avec celui qui jugera. Un moyen d'ailleurs de rendre service à ceux qui risquent d'être jugés, c'est de rester séparés d'eux. Le verset 16 montre que ces hommes ne sont pas heureux. Ils murmurent et se plaignent toujours. Le chrétien a la possibilité de vivre tranquille, paisiblement. Il peut être content et il a bien raison de l'être dans l'amour dont il est entouré et dont il est aimé.
Ceux-ci sont des murmurateurs
qui ne savent même pas apprécier les bénédictions que Dieu a mises à leur portée. Ils n'en profitent pas et pourtant ce sont des professants chrétiens responsables de la connaissance chrétienne. Ils font profession d'être conduits par un idéal très élevé. Ils font d'orgueilleux discours, alors qu'en réalité, ils sont tout simplement menés par leur convoitise. On veut être un chrétien distingué. Un chrétien ne devrait avoir qu'une ambition, faire toujours la volonté du Seigneur.
Le monde s'en va et sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement.
La fin de notre verset montre encore qu'ils flattent les autres. Ils admirent les hommes en vue de leur propre profit. Ils flattent mensongèrement pour recevoir. Quelle chose que Dieu descende dans cet abîme!
Mais Dieu constate son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous.
Versets 17 à 19.
Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des paroles qui ont été dites auparavant par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment ils vous disaient que, à la fin du temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur propre convoitise d'impiété. Ceux-ci sont ceux qui se séparent eux-mêmes des hommes naturels n'ayant pas l'esprit.
Le commencement de cette lettre montre la progression du mal jusqu'à la fin, c'est-à-dire l'apostasie. Maintenant, l'apôtre Jude s'adresse aux bien-aimés pour ouvrir devant eux les ressources qui sont à même de faire face à tout ce mal. Il montre comment les croyants peuvent être gardés et sont gardés. Non seulement il leur fait discerner tout ce qui se trouve dans ce monde pour en comprendre les caractères, mais il donne, heureusement, ce qui est nécessaire pour marcher avec Dieu. Le remède est là, mais il faut l'employer. Comme nous l'avons déjà remarqué, les premiers mots que nous trouvons, « mais vous », répétés au verset 20, sont en contraste avec l'expression employée précédemment en parlant de ces hommes qui se sont glissés parmi les chrétiens et qui sont appelés « ceux-ci ». Heureux qui peut se ranger dans cette catégorie des bien-aimés. Dans Daniel 10, verset 11, Dieu ne trouve pas un autre nom pour qualifier son serviteur qui était dans la stupeur devant la révélation des conseils de Dieu. Il dit
« Daniel, homme bien-aimé ».
Il reconnaît ainsi la fidélité de Daniel et montre combien il y attache d'importance. C'est le même titre que Dieu a donné à son fils.
« Celui-ci est mon fils bien-aimé »
et
« il nous a rendus agréables dans le bien-aimé ».
La première chose que les bien-aimés sont exhortés à garder, c'est la parole de Dieu, cette parole que nous avons entendue. Le mal est grand, il va toujours en grandissant jusqu'à la fin. Il ne faut pas attendre une amélioration, bien au contraire. Mais il y a une ressource pour tous les temps, c'était celle d'hier, c'est celle d'aujourd'hui, et ce sera celle de demain. C'est la parole immuable de Dieu. Si le mal y est appelé par son nom, il y a aussi la contrepartie, ce qui nous en garde. Jude n'enseigne pas quelque chose de nouveau. Il renvoie à ce que les saints connaissaient déjà. Au verset 5, il disait
« Vous qui une fois saviez tout »
et au verset 17
« Souvenez-vous des paroles »
de même que l'apôtre Jean dit au début de la première épître
« Ce qui était dès le commencement »
Il n'y a rien de nouveau pour nous. Ce qui était au commencement, c'est ce que nous devrions savoir, garder dans nos cœurs et aussi pratiquer. Il est dit à Philadelphie,
« Tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. »
C'est une grande grâce et donc une responsabilité d'avoir entre nos mains tout ce qui est nécessaire pour être gardé du mal et du monde. Dieu, dans sa grâce, nous rappelle ces choses parce que trop souvent nous les oublions. Il ne fait pas de reproches à ses bien-aimés, il les avertit. La première sauvegarde des saints, c'est donc, peut-on dire, ce titre de bien-aimé que nous avons déjà trouvé dans le premier verset où il est dit
« Bien-aimés en Dieu le Père ».
Avant de décrire le naufrage, l'apôtre présente ceux qui sont à l'abri. Puis, après avoir terminé le triste tableau, il leur parle à nouveau. N'ont-ils pas ressenti, en présence de toutes ces misères et de tous ces succès de l'ennemi, que le repos et la sécurité sont seulement en Dieu lui-même et dans sa parole? Plus on ira, plus il faudra de foi et de fermeté pour garder simplement la parole du commencement et résister à la tendance à moderniser même la parole de Dieu, et plus ceux qui auront la foi auront à se souvenir des paroles des apôtres, des paroles du Seigneur. Ce n'est pas toujours facile puisque l'apôtre Jude parle, dès son début, de
« combattre pour la foi ».
Notre sécurité absolue, c'est la pure grâce de Dieu. Le moyen d'en jouir, c'est de garder sa parole, de ne s'en écarter à aucun prix. C'est ce que l'apôtre Paul avait réalisé. Dans 2 Timothée, il dit
« J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi ».
Il était demeuré fidèle, non sans peine ni souffrance. Le témoignage de Dieu est un témoignage de résidus, de restes, de petites choses, de petits nombres. Le titre des saints ici, ce n'est pas leur force, c'est la place que Dieu leur a donnée, la grâce qu'il leur fait. Dieu a parlé du mal à ses bien-aimés. On entend dire quelquefois qu'il ne faut pas s'occuper du mal, combien il serait souhaitable de n'avoir pas à le faire. Le repos, c'est d'être occupé du bien. Hélas, le mal est là, Dieu doit s'en occuper, et les saints sont obligés quelquefois de s'en occuper et de ne pas croire que tout est bien, ni en eux, ni autour d'eux. Mais Dieu, pour les encourager, s'adresse aux croyants avec la tranquillité de celui qu'aucun mal ne touche et qu'aucune difficulté ne trouble. Il leur dit que, à la fin du temps, les fidèles se trouveraient environnés de gens qui traiteraient le christianisme comme une doctrine périmée et comme un essai qui a fait faillite. Ce sont là des choses que nous entendons. Nous n'avons pas à en être surpris. L'apôtre Pierre nous a déjà appris qu'au dernier jour, des moqueurs viendront marchant dans la moquerie selon leur propre convoitise. 2 Pierre 3, verset 3. Le tableau qui a été fait de la chrétienté professante justifierait les moqueries des incrédules, mais la foi sait à quoi s'en tenir. Le chemin du chrétien au milieu de la masse dite chrétienne n'est pas facile. Les difficultés qu'il y faut surmonter s'ajoutent à celles qui tiennent à nos circonstances, à nos épreuves, à nos propres défaillances. Ce sont les temps des eaux basses où la foi est mise à l'épreuve. Il y a beaucoup d'écueils partout et il faut la sagesse que Dieu donne pour mener à bien cette navigation périlleuse. Il faut rester comme de petits enfants attachés à la vérité du commencement. Heureux ceux que la grâce de Dieu maintiendra dans la simplicité et la fermeté de la foi, ceux-là n'auront pas perdu leur récompense. La parole de Dieu a été donnée complète. En elle est la ressource pour aller jusqu'au bout, malgré tout. Les apôtres du Seigneur Jésus ont dit ce qui était nécessaire pour que la foi soit soutenue et que les chrétiens soient gardés. Pierre montre que non seulement nous devons nous souvenir des paroles des apôtres, dont ils étaient, c'est-à-dire du Nouveau Testament, mais aussi de l'Ancien Testament. Il dit, en 2 Pierre 3, verset 2,
« Afin que vous vous souveniez des paroles qui ont été dites à l'avance par les saints prophètes. »
C'est l'Ancien Testament. Et
« Du commandement du Seigneur et Sauveur par vos apôtres. »
C'est le Nouveau Testament. Donc, pour être gardés au milieu du mal, il nous faut lire toute notre Bible. On pourrait dire, l'Ancien Testament ne concerne que le peuple juif, donc nous n'en avons pas besoin. Ce serait une totale erreur, car la manière selon laquelle Dieu garde est toujours la même. Il faut rester petit, écouter sa voix, être celui qui tremble à sa parole. Demandons dans nos prières que le Seigneur garde les saints dans ce qu'il leur a été enseigné. Lorsqu'un frère sait ce qu'il en adviendra de la chrétienté et se laisse plus ou moins influencer par un croyant moderniste, il n'a aucune excuse. Il sera terriblement coupable devant Dieu. Il n'a rien compris aux enseignements qu'il a pu recevoir. C'est une grâce si nous savons rester petits, parce que ce qui ne se voit pas et ce qui est petit aux yeux des hommes, c'est la communion avec Dieu et son approbation. Ils ne s'aperçoivent pas de cela, mais il est précieux pour le croyant de savoir qu'il a la pensée de Dieu, qu'il est en communion avec lui. Alors l'océan peut être houleux, il sait qui tient la barre. En rapport avec la garantie que nous donne la parole, il est dit.
Les paroles qui avaient été dites auparavant par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ.
Les titres du Seigneur sont rassemblés là pour nous montrer que cette parole est quelque chose de merveilleux, de glorieux. Les moqueurs
marchent selon leur propre convoitise d'impiété.
Il n'y a aucune relation avec Dieu. C'est la propre volonté du cœur naturel qui est en jeu. Ils ne sont pas à l'école de Dieu, tant s'en faut. Ils ont pour guide leur propre pensée. Ce sont des
hommes naturels n'ayant pas l'esprit.
Pour le chrétien, il y a une bénédiction réelle et éternelle. Le Saint-Esprit nous est donné pour être avec nous éternellement. Il est le sceau que nous sommes à Dieu. Il est l'onction. Par lui, nous connaissons les choses de Dieu. C'est un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Les hommes naturels n'ont rien de Dieu. Il ne peut donc y avoir de communion entre les uns et les autres. Combien cela fait apprécier la grâce qui nous a sauvés, convertis, nous a donné une nouvelle vie, donné aussi un cœur simple pour écouter Dieu quand il nous parle, et la foi des petits-enfants pour croire ce qu'il nous dit. Verset 20.
Mais vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit, conservez-vous dans l'amour de Dieu.
L'amour de Dieu nous prend par la main pour nous conduire au travers des épais brouillards qui envahissent le monde religieux et qui l'envahiront toujours plus. Il est précieux d'avoir une main fidèle qui nous amène avec sûreté au port désiré. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds, et une lampe n'est utile que dans l'obscurité. Si les ténèbres deviennent de plus en plus épaisses, nous avons cette lumière divine, certaine, sûre pour la foi. Malgré tout, Dieu veut nous donner du courage en nous faisant connaître ses ressources infaillibles. Nous avons déjà remarqué que Dieu nous ramène toujours à toute sa parole. C'est la connaissance des pensées de Dieu qui déploie devant nous tout ce qu'il en est et tout ce qu'il en sera du mal, mais aussi ce qui nous en préserve. Si nous avions fait attention à la parole de Dieu, nous aurions été gardés de chute. Dieu nous parle bien souvent de chute dans son livre. Il le fait avec sagesse. Il nous montre, quand c'est utile pour notre instruction, comment tel de ses bien-aimés, qui pourtant l'ont glorifié d'une manière générale, sont tombés, et quelle a été la cause de leur chute. On pense à un David qui marcha avec Dieu, sauf en quelques circonstances, dont une est particulièrement triste. Alors Dieu nous dévoile le pourquoi. On pense à Salomon, qui avait si bien commencé et continué sa vie de croyant. Pourquoi la fin de ses jours devient-elle si sombre? Simplement parce qu'il a oublié quelques versets de la parole de Dieu, qui étaient pourtant bien simples, et qu'il devait écrire, puis lire tous les jours de sa vie. C'est ce par quoi Salomon est tombé. Nous avons besoin de lire humblement, mais continuellement, la parole de Dieu. Ainsi, notre chemin sera éclairé. Les trois péchés que Salomon a accomplis, par lesquels il s'est laissé prendre, se résument dans les versets 17 à 20 de Deutéronome 17.
« Et il n'aura pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne pas. » Et il ne s'amassera pas beaucoup d'argent et d'or. Et il arrivera, lorsqu'il sera assis sur le trône de son royaume, qu'il écrira pour lui, dans un livre, une copie de cette loi, faite d'après le livre qui est devant les sacrificateurs, les Lévites. Et il l'aura auprès de lui, et il y lira tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, et à garder toutes les paroles de cette loi, et ses statuts pour les faire. en sorte que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères et qu'il ne s'écarte pas du commandement, ni à droite, ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses fils au milieu d'Israël.
Pourtant, il était averti de telle manière qu'il ne pouvait pas se tromper. Dieu ne nous donne pas toujours d'une façon littérale ce que nous ne devons pas faire. Souvent, l'enseignement est général, comme en 1 Jean 2, verset 15,
« N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. »
Tous les détails ne sont pas donnés des choses qui sont dans le monde, mais Dieu nous le fait bien comprendre par le simple fait que ce qui est du monde se résume en trois convoitises et que ces choses n'ont aucune communion avec le Père. La parole de Dieu forme et éclaire le champ visuel de l'homme de foi. Dieu veut lui faire discerner quelle est sa volonté dans le chemin et les embûches que Satan met devant lui. Mais il faut éviter ces embûches, et la parole de Dieu nous en rend capables. Si elle est lumière pour éclairer le chemin, elle donne aussi la force pour courir dans le sentier de Dieu. Nous avons déjà remarqué que Daniel était également un homme bien-aimé. Parce que Dieu lui a révélé un avenir très sombre, que beaucoup de mal devait arriver, il est angoissé dans la stupeur. Mais Dieu vient lui parler et aussitôt qu'il a entendu la voix, il reprend des forces. C'est la voix de Dieu, la parole de Dieu, qui non seulement fait voir le mal, mais donne aussi la force pour le surmonter. Il semble que Dieu nous dit « Les temps deviennent mauvais, l'ennemi fait son œuvre, le mal doit aller en grandissant. Il faut que tu cours dans ce chemin, mais je te donnerai la force. »
« Mais vous, bien-aimés, »
répète l'apôtre, établissant ainsi qu'au milieu d'un état général mauvais, il y a une exception, un chemin distinct, totalement différent de celui qui a été décrit et dans lequel les ressources abondent. D'abord,
vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi.
Par la foi, le croyant est en relation avec Dieu lui-même. Il est exhorté à faire des progrès dans la connaissance de Dieu en vivant dans sa sainte présence. Dans la première épître de Jean, les enfants de Dieu sont vus dans une croissance normale. Quand Dieu nous convertit, nous sommes de petits enfants, c'est une position normale. Ils ont quelque chose qui est tout à fait caractéristique pour eux, ils connaissent le Père. S'ils ne s'édifient pas eux-mêmes sur leur très sainte foi, sur leur connaissance de Dieu comme Père, il n'y aura pas de croissance. Ils seront dans un état anormal. Mais s'ils s'édifient eux-mêmes, ils croîtront et ils deviendront des jeunes gens. Cela se fera normalement. Pour nous édifier nous-mêmes sur notre très sainte foi, il faut nous nourrir chaque jour de la parole. Le Seigneur lui-même a dit
« Sondez les Écritures, car ce sont elles qui rendent témoignage de moi. »
La seconde ressource, c'est
priant par le Saint-Esprit.
Que Dieu nous garde de prier autrement. Mais comment reconnaître que l'on prie par le Saint-Esprit? La parole nous enseigne que le rôle du Saint-Esprit est toujours de glorifier le Seigneur. Il faut donc que nos prières aient pour but la gloire du Seigneur. Le Saint-Esprit agissant en nous, nous détourne de tout souci égoïste de nous-mêmes et de notre tendance à ne songer dans nos prières, qu'à nous-mêmes et à notre bien-être. Mais pour toute demande faite dans la simplicité, avec Christ devant le cœur, il y a réponse. Dans Romains 8, verset 26, il est dit
« De même aussi, l'Esprit nous est en aide dans notre infirmité. »
Si nous nous laissons diriger et conduire par lui, nous ne ferons que des demandes qui glorifient Dieu. Nos prières sont toujours faibles et imparfaites parce que nous sommes des vases imparfaits. C'est une grande grâce que l'Esprit vienne nous aider. Sans lui, notre langage, notre manière de penser, n'atteindrait pas à Dieu. L'esprit, lui, a son langage propre. C'est le soupir dont Dieu connaît toute la signification et qui traduit notre réel besoin. Ce soupir s'échappe de nos cœurs. Nous n'avons pas toujours conscience de son importance pour Dieu qui sait discerner tout et qui répond. La prière va de pair avec la connaissance du Seigneur. Aussitôt que Paul a été converti, la parole de Dieu commence à faire son travail. Il est dit, il prie. Cette prière a débuté ainsi.
Que dois-je faire, Seigneur ?
Voilà toute la vie chrétienne. Verset 21.
Conservez-vous dans l'amour de Dieu, attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle.
Deux caractères sont maintenant présentés qui complètent les deux premiers. D'abord, nous sommes exhortés à nous conserver dans l'amour de Dieu. L'atmosphère dans laquelle les bien-aimés se trouvent est celle de l'amour. Quelle douceur de penser à l'amour de Dieu, si grand, si profond, si vaste, et qui est cependant pour nous. Dieu est amour. L'amour du Père et l'amour du Fils ne font qu'un, comme on le remarque en 2 Thessaloniciens 2, verset 16.
Or, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est notre Dieu et Père qui nous a aimés.
Les deux sont liés en un. Cet amour date de l'éternité passée. Il a été manifesté aussitôt que la création est sortie des mains de Dieu et que l'homme a été là. La première pensée qui nous est donnée dans Genèse 2, c'est la pensée de l'amour. Dieu entoure de bénédictions ceux qu'il avait créés et établis sur la terre. L'amour de Dieu est le terrain immuable sur lequel sont établies notre relation avec Dieu et nos bénédictions. C'est un amour profond que rien ne peut tarir. Notre amour pour lui provient de ce que Dieu nous a aimé le premier. Il est le fruit de sa grâce en nous et non une capacité de la chair. Dieu nous a aimés entièrement et gratuitement en nous donnant son Fils. Puis il a versé son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Bien que notre amour pour Dieu soit une chose désirable, que la parole nous enseigne, nous n'osons guère en parler. Il convient bien moins d'en parler que de le réaliser. C'est la nouvelle vie qui aime Dieu et s'attache au Seigneur Jésus d'une manière réelle et profonde par la puissance du Saint-Esprit. Pour le chrétien, Christ est tout. Le Seigneur Jésus disait à ses disciples
« Demeurez dans mon amour. »
Il en donne le moyen, avoir constamment cette pensée que l'amour de Dieu est là en activité pour nous. Une des ruses de l'ennemi, nous le sentons dans la marche de chaque jour, c'est qu'il voudrait nous faire voir la main de Dieu séparée de son cœur, parce que Dieu exerce la discipline quand c'est utile. Mais même quand sa main nous serre de près pour nous faire lâcher ce qui n'est pas de lui, son cœur dirige toujours sa main. Dans Romains 8, Dieu nous dit
« Nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. »
Dieu ne dit pas « Nous comprenons ». Souvent, nous ne comprenons pas les voies de Dieu. Mais il dit « Nous savons ». C'est la confiance entière que le cœur de Dieu s'ouvre pour bénir les saints en toutes circonstances, de sorte que nous sommes dans une atmosphère bienheureuse.
Conservez-vous dans l'amour de Dieu.
Au commencement de l'Épître, nous avons trouvé
« Conservez en Jésus-Christ ».
C'est l'expression de l'amour de Dieu. C'est aussi la position dans laquelle Dieu nous a placés. Dans un temps où le mal abonde, car c'est bien là ce que nous ressentons, nous ne pouvons rien faire. Et pourtant, le chemin de la foi est certain, tranquille, heureux, parce qu'on y marche avec Dieu, on y a sa pensée. Le Saint-Esprit dirige et on a la conscience que l'amour de Dieu ne peut manquer, puisqu'il nous environne de tous côtés. On n'est pas indifférent au mal, mais confiant dans le cœur de Dieu. Pour être conservé dans l'amour de Dieu, il faut un exercice incessant. Avoir la conscience et la jouissance de l'amour de Dieu n'est pas une chose qui suive les croyants d'une façon égale. Entre savoir cela et en avoir la conscience, en jouir, il y a une bien grande différence. Ce que veut dire l'esprit ici, c'est d'être conservé dans la jouissance de l'amour de Dieu, la puissance de cet amour, d'en garder dans le cœur tout le prix. L'expérience de chacun prouve que cela ne se réalise que par notre très sainte foi et si nous prions par l'Esprit. Être conservé dans l'amour de Dieu constitue le ressort de la vie chrétienne dans les temps de ruines. Voilà où nous devrions être continuellement. Misère partout, autour de nous et d'abord en nous. Eh bien, l'amour de Dieu peut remplir nos cœurs parce que son cœur à lui est toujours le même. Mais il faut la foi. Dans les temps de sécheresse générale, Dieu peut maintenir des vases pleins, et il nous exhorte à ce qu'il en soit ainsi pour nous. On peut penser, dans notre temps, au début de l'évangile de Luc. C'était aussi un état de ruine extraordinaire, très affligeant. Mais il y avait là quelques âmes qui étaient conservées, des âmes heureuses qui jouissaient de Dieu, et que tous les ravages que l'ennemi avait faits parmi le peuple n'avaient pu abattre. D'ailleurs, si nous n'avons pas l'amour de Dieu, que nous reste-t-il? Et que sommes-nous? Cette exhortation, quoiqu'il s'agisse d'un temps de ruine, est collective. L'esprit envisage qu'il y en a plusieurs qui sont susceptibles d'entendre ce qu'il a à dire. Conservez-vous, frères et sœurs. Nous devons donc nous demander si nous nous aidons mutuellement à nous conserver dans l'amour de Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen que les deux qui nous sont donnés,
vous édifiant sur votre très sainte foi,
et, en second lieu,
priant par le Saint-Esprit.
Tout ce qui n'a pas cet exercice pour base ne conserve pas dans l'amour de Dieu, quelles que soient les apparences. Mais on est bien payé de ses peines si, en priant et en s'exhortant, on jouit ensemble de l'amour de Dieu. Nous ne saurions trop insister sur le fait que, dans les temps extrêmement difficiles où nous sommes, ce qui prime, c'est l'amour de Dieu, parce qu'il est la source, l'origine de tout amour vrai. Toutes choses sont précieuses à leur place, et en particulier les démonstrations d'amour fraternel. Mais il est beau de voir que, dans ces temps de ruines, c'est l'amour de Dieu qui est présenté comme la ressource de la foi, la sûreté du cœur, le remède à beaucoup de maux. Toutes nos relations fraternelles devraient tendre à nous conserver dans l'amour de Dieu. Elles seront marquées alors par un amour sans égoïsme ni hypocrisie, un amour qui a sa source dans le cœur de Dieu et qui ne pense qu'à la gloire de Dieu et aux intérêts des siens. Que de fois, notre cœur étant vide, nous laissons croire qu'il est plein. Pourtant, nous avons la ressource de la prière et de l'édification mutuelle pour que notre cœur soit rempli. C'est alors seulement qu'il pourra se reporter sur d'autres, dans l'amour de Dieu. Il n'est pas dit que nous soyons amour, parce que la créature ne peut pas l'être. Il lui faut un objet, et c'est pourquoi il nous faut puiser à la source de l'amour, qui est Dieu. Mais soyons encouragés parce que ces choses sont dites à des chrétiens, et, par la grâce de Dieu, nous en sommes. Elles sont dites à des chrétiens dans des temps de ruines, et nous y sommes. Que le désir de chacun soit de jouir beaucoup de l'amour de Dieu. Si nous le réalisions, que de choses seraient changées en nous, au milieu de nous, d'elles-mêmes, comme un fruit mûr porté par nous et au milieu de nous. Dieu demeure, son amour demeure, et il demeure à la portée de nos cœurs. De sorte que lorsque nous nous lamentons, peut-être trop, sur la faiblesse et la ruine de tout, Dieu pourrait nous dire « Mais mon amour est toujours à la portée de vos cœurs. Au milieu du désert, vous avez une source, buvez !» Les trois grandes ressources que Dieu donne à la fois pour traverser les temps de ruine, savoir la connaissance et la pratique de la parole de Dieu, ensuite la prière, puis le fait de demeurer dans l'amour de Dieu, se lient ensemble. La connaissance des pensées de Dieu nous révélant ce qu'il est et ce que nous sommes, nous apprend à prendre un caractère de dépendance et de confiance exprimé par la prière, et dans cette attitude, nous expérimentons toujours l'amour de Dieu. Cet amour date de longtemps, il se continue, il demeure, et enfin il va encore se manifester d'une manière merveilleuse en envoyant le Seigneur Jésus pour nous prendre. C'est ce qu'exprime la dernière partie du verset 21.
Attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle.
Le Seigneur a compassion des siens qui font le chemin. Il sait bien dans quelle misère nous sommes, mais son amour veut faire face à tout. Et, au moment où le Père lui dira de venir nous chercher, cette précieuse espérance se réalisera. Les temps fâcheux qui ont déjà commencé se développeront sans doute beaucoup plus. Combien il fait bon être dans cette atmosphère divine où la foi peut nous maintenir, mais dans laquelle nous avons les ressources qui ne manquent pas. Nous baignons dans l'amour de Dieu, amour partout, amour quand nous n'étions que de pauvres pécheurs, amour depuis que Dieu nous a trouvés, amour dans le chemin que nous poursuivons bien faiblement, mais pourtant soutenu par lui. Et maintenant, Dieu dirige nos cœurs en avant en disant « J'ai compassion de vous, je vous enverrai chercher, vous ne resterez pas toujours dans le mal. » Cela rappelle un passage d'Ésaïe 33 relatif au peuple terrestre le jour où le résidu verra le roi dans sa beauté et où il n'entendra plus le langage obscur de l'ennemi. Quelle délivrance! Non seulement la miséricorde du Seigneur vient nous retirer de la scène du mal, mais il y aura autre chose, la vie éternelle, la communion avec le Père et le Fils connue éternellement, sans entrave, sans nuage. Quel délice, quel paradis de Dieu! Nous savons que la miséricorde du Seigneur de gloire s'applique à notre condition actuelle, qui est une condition d'infirmité. Les compassions de Dieu reposent sur nous, la miséricorde du Seigneur est sans cesse en exercice à notre égard, et c'est une douce consolation pour nous qui nous sentons si faibles, si petits, si chétifs, et qui avons à vivre et à rendre témoignage dans un monde où tout est difficulté et danger. Mais pourquoi nous est-il dit ici d'attendre la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour recevoir cette vie éternelle? Nombreux et précieux sont les enseignements et les textes de la parole au sujet de la vie éternelle. Il nous est dit que Jésus-Christ est la vie éternelle. Il en est la source pour nous, mais il la donne à ses chers rachetés. Il la possède déjà comme un trésor actuel, eux qui connaissent celui qui révèle le Père et qui conduit au Père. Mais quand il est question d'attendre la vie éternelle, il s'agit de la vie éternelle en gloire, de sa plénitude glorieuse, et c'est ce que nous trouvons ici. Nous possédons la vie éternelle, et c'est la même vie de laquelle nous jouirons à jamais dans le ciel. Mais nous ne la connaissons pas encore dans sa plénitude infinie. Ce passage fait pendant à Romains 6, verset 22.
Mais maintenant, ayant été affranchis du péché et asservis à Dieu, vous avez votre fruit dans la sainteté et pour fin la vie éternelle.
C'est la vie éternelle en gloire, dans sa plénitude glorieuse. On comprend qu'après le tableau fait par le Saint-Esprit de la chrétienté où toutefois de vrais saints se trouvent, la miséricorde soit mise en avant en vue de cette vie éternelle. Cette pensée nous est sensible, à nous qui sommes environnés de toutes parts de misère et de faiblesse. Il faut que ce soit l'amour du Seigneur, en considération de notre misère et de notre faiblesse, qui soit le gage assuré de notre entrée dans cette vie éternelle en gloire. Jude nous fait relever la tête en nous présentant cette espérance qui mettra fin à tous les exercices supposés dans les versets 20 et 21. Toujours avoir à s'édifier, toujours avoir à prier comporte de la peine, c'est une attitude de combat et de vigilance. Mais c'est une attitude que nous ne pouvons abandonner un seul instant. Il n'y a pas de détente possible. Si nous nous laissons aller, l'ennemi se charge de nous faire sentir que nous sommes chez lui. Alors nous avons un encouragement présenté dans cette espérance et nos cœurs brûlent à la pensée qu'elle peut devenir réalité en cet instant même. Nous trouvons ici un aspect de la venue du Seigneur présenté comme consolation et encouragement pour les saints harassés de toutes parts. La vie éternelle est un trésor bien précieux. Si elle a la gloire et l'éternité pour fin, il faut nous souvenir aussi qu'elle a ses origines dans l'éternité. Au début de l'épître à Tite, nous trouvons exprimer cette vérité.
Paul, esclave de Dieu, dans l'espérance de la vie éternelle que Dieu, qui ne peut mentir, a promise avant les temps des siècles.
Si la vie éternelle est promise avant les temps des siècles, nous comprenons par là même qu'elle est à l'abri de toute injure du temps et de l'erreur. Notre foi trouve là un fondement sûr que Dieu a posé, et ce qui est de Dieu ne peut être altéré, mais est immuable d'éternité en éternité. Nous sommes conservés en Jésus-Christ par grâce, comme nous le voyons au début de cette courte épître, et c'est Dieu seul qui peut nous garder comme nous le voyons à la fin. Mais il nous appartient d'entrer dans le plan de Dieu et d'aller, pour ainsi dire, à la rencontre de Dieu dans les dispositions de notre âme et par l'attitude que nous prenons en ce bas monde. C'est une vérité développée dans le paragraphe que nous avons sous les yeux. Dans ces versets, les trois personnes divines sont placées devant nous, toutes les trois en notre faveur.
Priant par le Saint-Esprit, conservez-vous dans l'amour de Dieu, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ.
Rien ne nous manque. Si la ruine est autour de nous, toutes les ressources de la Trinité sont à la disposition du chrétien individuellement et du témoignage collectif. Au commencement de l'épître aux Thessaloniciens, qui présente des chrétiens dans leur première fraîcheur, on trouve aussi Jésus-Christ, Dieu le Père, la puissance de l'Esprit-Saint, donc la Trinité en activité. Il est précieux de trouver les mêmes personnes divines actives ensemble dans un autre temps et dans d'autres circonstances. Nous avons affaire à un Dieu immuable, dont les conseils demeurent quelle que soit la situation des chrétiens ici-bas, et cela montre la divine harmonie de la parole de Dieu. Versets 22 et 23.
Et les uns qui contestent, reprenez-les. Les autres, sauvez-les avec crainte, les arrachant hors du feu, haïssant même le vêtement souillé par la chair.
Le verset 22 nous enseigne à avoir du discernement, de façon à ne pas confondre ceux qui mènent avec ceux qui sont menés. Les premiers sont de grands responsables. Ils ont la prétention d'enseigner et de conduire, introduisant des contestations et des discussions. Ils font, en quelque sorte, ce que l'apôtre dit plus haut de Satan, qui contestait et discutait avec l'archange Michel. Quand il s'agit de cette catégorie de personnes, il faut les reprendre et les faire taire. C'est ce qui convient dans l'assemblée de Dieu. Mais il y a les autres qui se laissent séduire et attirer par des voies étrangères sur un terrain glissant. Ceux-là, nous avons à les sauver avec crainte et à les arracher hors du feu. Une telle attitude à leur égard est l'attitude de l'amour. L'amour se réjouit avec la vérité et s'applique, partout où cela est possible et désirable, à couvrir une multitude de péchés. Et il faut que nous remplissions la mission qui nous est départie avec cette crainte qui convient dans une telle activité et qui ne peut trouver une expression pratique que dans la mesure où nous dépendons du Seigneur et où nous sommes petits à nos propres yeux pour tout recevoir de lui. Dans Amos 4, verset 11, il est dit
« Et vous avez été comme un tison sauvé d'un incendie. »
Et dans Zacharie 3, verset 2,
« Et l'Éternel dit à Satan, « Celui-ci n'est-il pas un tison sauvé du feu ?»
Ce sont là des rayons de la grâce divine, et ces rayons nous avons à les refléter. À la fin de l'épître de Jacques, il y a aussi un passage bien précieux.
« Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'égare de la vérité, et que quelqu'un le ramène, qu'il sache que celui qui aura ramené un pécheur de l'égarement de son chemin sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. »
Quand la parole de Dieu emploie cette expression « couvrir une multitude de péchés », il s'agit des manifestations de l'infirmité individuelle qui peuvent être supportées, soulagées, guéries dans l'amour. Il ne s'agit nullement de dissimuler un péché grave qui constitue, par sa présence, une offense au Seigneur et un outrage direct à sa Sainte Majesté. Là, les enseignements de la parole sont tout différents. Il faut que le péché qui revêt ce caractère soit manifesté et jugé. Cela ne veut pas dire que nous ne puissions pas, dans le secret de nos cœurs et dans le secret de nos vies, faire beaucoup en pareil cas. Les figures de l'Ancien Testament donnent des instructions précieuses à cet égard. Nous voyons que, quand il s'agit de certaines fautes particulières, d'ailleurs très graves, nous sommes appelés à manger le sacrifice pour le péché dans un lieu saint. C'est une chose très remarquable et que nous savons, hélas, bien peu pratiquée. Mais il y a aussi des cas où cette ressource n'existe pas. Quand il s'agissait du sacrificateur Ouin, nous ne trouvons pas qu'il soit question de manger les sacrifices pour le péché, non plus quand il s'agit du péché qui concerne l'assemblée dans son entier. Mais quand il s'agit de certaines fautes particulières, même de toute gravité, il y a cette ressource. Eh bien, quand nous mangeons le sacrifice pour le péché dans un lieu saint, à l'occasion de certaines fautes individuelles, qui sont des fautes graves, le Seigneur est honoré. Nous entrons dans la pensée de Dieu, nous mettons cette pensée en pratique. Ce sont les ressources que la grâce met à notre disposition. Nous trouvons quelque chose de semblable à cette attitude énergique du verset 22 dans 1 Timothée 5, verset 20.
« Ceux qui pêchent, convainc-les devant tous, afin que les autres aussi aient de la crainte. »
Nous voyons en note qu'on peut lire également « Reprends-les ». Si quelqu'un est repris publiquement, ouvertement, parce que la gloire du Seigneur et le témoignage sont foulés aux pieds, c'est qu'il y a eu assez de discernement et d'énergie pour démasquer le mal publiquement. Au commencement de l'Épître, nous avons vu que les saints étaient invités à combattre pour la foi. Ici, à la fin, nous trouvons quelques précisions sur l'attitude requise des saints en présence des difficultés. Les deux versets précédents nous ont montré l'exercice nécessaire pour que l'état intérieur du croyant soit en ordre. Il faut d'abord que notre cœur soit en ordre. Ce n'est pas à des apôtres que ce verset 22 est adressé, c'est aux saints. L'apôtre avait son autorité, le pouvoir de livrer à Satan, etc. Mais ici, c'est une invitation qui est faite aux saints. Il est évident, et la suite des versets nous le montre, qu'une telle attitude requiert une autorité morale qui ne peut être acquise que par l'exercice indiqué aux versets 20 et 21. Nous trouvons un exemple de contestation précisément, non pas vis-à-vis des incrédules, mais des personnes de l'Assemblée, dans 1 Corinthiens, à propos des cheveux. Dans ce chapitre où il est dit précisément
« S'il y en a qui contestent »,
l'apôtre coupe court à toute discussion.
« Nous n'avons pas une telle coutume, ni les assemblées de Dieu. »
Il n'est pas bon qu'un croyant supporte absolument tout indéfiniment sans rien dire. Une des exhortations que l'apôtre donne à Timothée, c'est
« Exhorte, reprends. »
Si nous étions assez pieux, assez spirituels, nous pourrions réaliser toute cette gamme d'interventions les uns vis-à-vis des autres. Et ces choses accomplies avec Dieu auraient d'excellents effets. Ce qui rend la chose difficile pratiquement aujourd'hui, c'est que nous n'avons plus d'apôtres. L'apôtre pouvait trancher certains cas et aller jusqu'à livrer quelqu'un à Satan. C'était son privilège exclusif, et cela résolvait des cas difficiles. De même, Timothée était investi d'une autorité particulière par l'apôtre à Éphèse. Quant à nous, nous sommes obligés d'avoir beaucoup de dépendance dans notre misère, mais le Seigneur est toujours là. La répréhension fait partie de l'exercice de l'amour fraternel, mais elle doit être exercée sous l'empire de cet amour. Nous nous imaginons fréquemment que l'amour consiste à tout laisser aller, et alors la vigilance et les devoirs envers nos frères ne s'éveillent que lorsque le mal est là. L'amour, au contraire, prévient le mal et parle en temps utile. Notons que ces choses nous sont dites dans une épître où la ruine est décrite. Par conséquent, c'est applicable à notre temps. La question est de savoir si l'autorité morale donnée par le Seigneur est respectée ou ne l'est pas. Il y a eu des situations très graves et très critiques où l'autorité morale d'un serviteur du Seigneur a été respectée, où sa voix a été écoutée et où une situation, qui paraissait sans espoir, s'est trouvée modifiée du tout au tout, améliorée et rétablie rapidement. Mais dans d'autres cas, certaines personnes ne veulent pas écouter ce qui est dit de la part du Seigneur, et alors la situation empire. Il est donc à désirer qu'il y ait des frères et des sœurs. Quelquefois, une sœur a été invitée à remplir un service de ce genre auprès d'une sœur, qualifiée pour, le cas échéant, intervenir. Si on marche avec Dieu, on remet les conséquences à Dieu. C'est un service que l'on doit recevoir, comme tout autre, de la part du Seigneur. Les versets que nous examinons se rattachent à la discipline paternelle. Il y a la discipline purement fraternelle, Matthieu 18, puis la discipline paternelle, celle d'un frère qui peut avoir à parler à un autre frère, mais avec une autorité morale. Ces diverses disciplines ont pour but, précisément, la restauration du frère ou de la sœur auquel on s'adresse. Et si tous ces exercices de discipline n'ont aucun effet, on peut être conduit à se séparer de quelqu'un. Mais le retranchement n'est pas la discipline. Il est au contraire l'affirmation du fait que la discipline, selon la parole, n'a pas eu d'effet sur l'âme en question et qu'on est obligé de s'en séparer. Quelle vigilance doit produire dans le croyant qui veut suivre la parole l'amour qu'il a pour ses frères? Il ne faut pas dire « ce que mon frère fait ne me regarde pas ». Jamais la parole ne parle ainsi. Et l'une des raisons de nos humiliations, c'est que précisément nous n'avons pas su penser assez à nos frères pas su prier pour eux, pas su les reprendre à temps, les avertir à temps et, à temps peut-être, les arracher à l'ennemi. Nous devons aussi haïr même le vêtement souillé par la chair. Il y a des choses que Dieu hait et que nous avons à haïr comme Dieu les hait. À l'assemblée d'Éphèse, il est dit
« Tu hais les œuvres des Nicolaïtes, lesquelles moi aussi je hais. »
Apocalypse 2, verset 6.
La crainte de l'Éternel, c'est de haïr le mal.
Proverbe 8, verset 13.
Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal.
Psaume 97, verset 10. Le mal n'est jamais une abstraction, il se concrétise et il est rattaché à des actes et à des personnes. Ce qu'il y a d'important et de grave concernant l'Assemblée au sujet de ces questions-là, c'est de veiller à ce qu'il ne s'introduise pas de principes dissolvants du témoignage. Il y a ce qui touche à l'ensemble et ce qui touche à l'individu. Le plus grave est ce qui peut ruiner tout le corps. C'est à cela qu'il faut tout d'abord veiller. Si quelqu'un veut contester et introduire des principes qui ruinent, il faut demander au Seigneur qu'il arrête ce mal en se servant de qui il voudra, ou sans aucun instrument s'il trouve que cela est bon ainsi. Mais il ne faut pas, sous prétexte d'amour, tout laisser faire, tout laisser dire, et laisser s'introduire n'importe quelle doctrine ou n'importe quelle pratique. Si l'Assemblée n'est pas le refuge de la vérité dans tous les sens, il n'y en a plus au monde, car elle perd son caractère de soutien de la vérité. C'est un chemin très dangereux, parce que dès qu'on se refuse à juger le mal, on perd toute force et toute puissance dans la suite. On perd la réalisation de la présence du Seigneur, même lorsque, des lèvres, on continue à se réclamer de sa présence. Versets 24 et 25.
Or, à celui qui a le pouvoir de vous garder sans que vous bronchiez, et de vous placer irréprochable devant sa gloire avec abondance de joie, au seul Dieu, notre Sauveur, par notre Seigneur Jésus-Christ, gloire, majesté, force et pouvoir, dès avant tout siècle, et maintenant, et pour tous les siècles. Amen.
Maintenant, l'Esprit tourne nos regards vers la ressource suprême. Cette courte épître nous a fait voir des temps bien solennels, où le mal abonde et où il est difficile de suivre le chemin sans broncher. Mais il y a une ressource de tous les temps, et elle est divine. De notre côté, hélas, nous manquons, malgré les ressources qui nous sont proposées et que nous avons vues. Mais Dieu dit, comptez sur moi. Je vous aime assez non seulement pour vous donner le salut de vos âmes, mais aussi pour vous donner le salut de la course, afin que vous puissiez être placés devant ma face avec abondance de joie. Quelle fin heureuse et bénie pour le croyant! Mais comment arriver? Avons-nous fondé nos espoirs sur nous-mêmes, notre vigilance, nos désirs, nos soupirs? Eh bien non, il vaut mieux nous abandonner à celui qui veut et qui peut nous garder. Alors il s'agit pour nous de ne pas l'entraver dans tout ce qu'il doit faire pour que nous soyons gardés sans que nous bronchions, dociles, dépendants, méfiants de nous-mêmes, nous appuyant avec assurance sur lui. Notre précieux Sauveur a poursuivi et achevé sa course à la gloire de son Dieu et Père. Mais on l'entend dire dans le psaume 16, verset 1,
« Garde-moi, ô Dieu, car je me confie en toi. »
Et au verset 8,
« Je me suis toujours proposé l'Éternel devant moi. »
Il y a de la gloire pour Dieu quand il sauve un pécheur, mais il y a aussi de la gloire pour Dieu quand il tient un de ses rachetés par la main, et quand il lui fait sentir que lui seul peut le porter, le garder et que, dans sa faiblesse extrême, lui fait le nécessaire. Le mal nous surprend facilement, mais Dieu n'est pas surpris par le mal, et comme nous le chantons quelquefois, chaque soir il prépare notre lendemain. Cela est bien reposant il ne faut que la simplicité de nos cœurs pour nous appuyer sur une telle déclaration. Ce n'est pas par les instructions et les exhortations données à la fin du paragraphe précédent, versets 17 à 23, que se termine l'épître. Le danger aurait été que ces exhortations nous portent à faire fond sur nos exercices spirituels, même les meilleurs et selon Dieu. Nous ne pouvons pas faire fond sur notre piété, ni sur le sentiment que nous pouvons avoir de notre responsabilité. Le rocher de notre confiance, l'Esprit l'évoque pour la foi à la fin de l'Épître. Après la description de ce naufrage général, Dieu se présente et c'est bien lui qu'il nous faut. Sur cette scène d'affliction, de difficulté, de danger où nous avons à vivre, à rendre témoignage au Seigneur et à Dieu, et à combattre pour la foi qui a été une fois enseignée aux saints, nous ne pouvons apporter que notre faiblesse et notre incapacité. Il n'y a aucune force en nous qui nous permette de nous garder nous-mêmes. Mais Dieu, le seul Dieu notre Sauveur, possède, lui, cette puissance efficace et fidèle qui seule peut nous garder, malgré toutes les difficultés que nous rencontrons autour de nous ou les mauvais penchants que nous trouvons en nous. La parole de Dieu nous donne les instructions les plus solennelles, mais aussi les plus encourageantes. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, nous lisons
« Or, le Dieu de paix lui-même,
la paix en contraste avec l'agitation de la chair et avec l'agitation de ce pauvre monde,
vous sanctifie entièrement et que votre esprit, votre âme et votre corps tout entier soient conservés sans reproche en la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. »
Et il est ajouté
« Celui qui vous appelle est fidèle, qui aussi le fera. »
Dans Philippiens 1, verset 9, l'apôtre dit
« Et je demande ceci dans mes prières, que vous ne bronchiez pas jusqu'au jour de Christ. »
Nous ne pouvons pas nous garder nous-mêmes, mais nous sommes invités par la parole de Dieu à entrer, pour ainsi dire, dans le plan de Dieu. C'est ainsi que nous trouvons dans 2 Pierre 3, verset 14
« C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, étudiez-vous à être trouvés sans tache et irréprochables devant lui en paix, et estimez que la patience de notre Seigneur est salut. »
Quel encouragement! Nous sommes dans la petitesse et l'impuissance, mais nous pouvons nous laisser instruire par Dieu lui-même et entrer dans les plans de son amour à notre égard en vue d'une marche et d'un témoignage fidèle jusqu'au beau moment où il nous sera donné d'être placés irréprochables devant sa gloire avec abondance de joie. Et ici, il ne s'agit pas seulement de la position merveilleuse que nous avons en Christ devant Dieu, comme nous lisons dans l'Épître aux Colossiens,
« Pour vous présenter saints et irréprochables et irrépréhensibles devant lui. »
Colossiens 1, verset 22. Mais il s'agit de ce que sera notre part quand nous atteindrons, étant les objets de la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, la vie éternelle en gloire. Nous sommes appelés à marcher dans la séparation du monde et dans la sainteté. Cette sainteté qui doit nous caractériser ici-bas est exactement la même que celle que nous posséderons dans le ciel. La différence est que, lorsque nous aurons nos corps spirituels et glorieux, cette sainteté sera plénière, tandis qu'ici-bas, en raison de notre infirmité et des circonstances où nous vivons, elle ne l'est pas. Mais c'est la même sainteté. Et nous voyons aussi dans ce beau verset 24 qu'il y a abondance de joie. Tout cela nous porte à louer, à bénir et à adorer le Dieu qui nous fait tant de bien, le
seul Dieu notre Sauveur.
Il est remarquable que dans cette épître qui nous dénonce l'apostasie, l'Esprit de Dieu fait briller devant nous ce titre merveilleux que nous trouvons plusieurs fois aussi dans les épîtres à Timothée et à Tite. Dieu est le Dieu Sauveur. Cela ne veut pas seulement dire que Dieu, qui est le Dieu d'amour, sauve les pécheurs en leur accordant le pardon de leurs péchés. mais cela nous place en présence des enseignements multiples que la parole de Dieu nous donne à l'égard du salut. Il y a le pardon des péchés, il y a le salut de l'âme, nous le savons bien, c'est par là qu'il faut commencer, c'est la base de tout le reste. Mais il y a aussi le salut du corps. C'est Philippiens 3, verset 21.
Jésus-Christ comme Sauveur qui transformera le corps de notre abaissement en la conformité du corps de sa gloire, selon l'opération de ce pouvoir qu'il a de s'assujettir même toute chose.
Il y a le salut en tant qu'ensemble des délivrances que Dieu nous accorde jour après jour dans ce monde de difficultés, d'afflictions, de périls et de dangers. C'est 2 Corinthiens 1, verset 6.
Et soit que nous soyons affligés, c'est pour votre consolation et votre salut, qui est opéré en ce que vous endurez les mêmes souffrances que nous aussi nous souffrons. Et notre espérance à votre égard est ferme, soit que nous soyons consolés, c'est pour votre consolation et votre salut.
Il y a aussi le salut en tant que se rapportant à la marche et au témoignage, jusqu'au moment où nous atteindrons le but glorieux qui est devant nous. C'est de ce salut qu'il est dit en Philippiens 2, verset 12.
Travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement.
Dans Hébreux 2, verset 3, le salut embrasse toutes les vérités qui se rattachent à lui.
Un si grand salut, qui, ayant commencé par être annoncé par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'avaient entendu,
c'est-à-dire par le moyen ou l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ, la personne même du Seigneur de gloire, qui brille et resplendit devant la conscience et le cœur des saints s'est racheté. Nous avons déjà rappelé, psaume 16, verset 1,
« Garde-moi, ô Dieu, car je me confie en toi. »
Il est remarquable que nous trouvions cette parole appliquée au Seigneur. Ce n'était pas qu'il eût besoin d'être gardé comme nous, étant l'homme saint, juste et parfait, mais il prenait en tant que tel la position de dépendance, d'obéissance et de confiance, qui est la position de l'homme aux yeux de Dieu. Mais ailleurs, par exemple, au psaume 84, verset 12, nous lisons
« Bienheureux l'homme qui se confie en toi ».
Celui dont la portion et dont le cœur sont les mêmes que ceux du Seigneur. Et cette pensée, nous la retrouvons encore dans Jérémie 17, verset 7.
Bénis l'homme qui se confie en l'Éternel, et de qui l'Éternel est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux. Il ne cessera de porter du fruit.
Dieu a le pouvoir de nous garder sans que nous bronchions. La grande affaire, donc, pour nous, c'est de nous confier en celui qui a le pouvoir et de ne pas nous confier en nous-mêmes. Et c'est là une leçon difficile. Lorsque nous nous confions en nous-mêmes, nous bronchons. Ézéchias a dû apprendre tout ce qui était dans son cœur. Il ne s'est pas confié en Dieu pleinement. À un moment donné, Dieu lui lâche la main un instant. Dieu a le pouvoir de nous garder. Et nous devons demander que sa grâce nous accorde de nous confier en lui entièrement. Rappelons encore ce verset.
Vous êtes gardés par la puissance de Dieu par la foi.
1 Pierre 1, verset 5. Il y a le côté de Dieu qui nous garde, mais il faut que la foi soit en exercice. Nous profitons par la foi de la puissance de Dieu et de tout ce qui nous est dit ici. Nous trouvons l'expression « broncher » dans 2 Samuel 6, verset 6. Là, ce ne sont pas des hommes qui ont bronché, ce sont des bœufs. Le manque de foi de David l'a porté à imiter ce qu'avaient fait les païens. S'il avait consulté Dieu sur la manière de porter l'arche, il ne l'aurait pas fait porter ainsi, et Dieu permet qu'il y ait chute. L'oubli de la parole de Dieu a entraîné cette solennelle conséquence. De même, si des chrétiens chargés du témoignage bronchent, le témoignage tombe par terre. Combien il nous faut méditer ces versets dans les jours où nous sommes arrivés. Nous avons besoin de Dieu et de Dieu seul, partout, toujours, ce qui veut dire que nous avons besoin de prier, de veiller, de haïr le mal. que notre cœur soit tourné vers Dieu. Vivons assez près de Dieu pour le connaître, lui, et nous connaître, nous. C'est un exercice qui doit être entretenu tous les jours. Dieu nous a gardés aujourd'hui. Nous lui demanderons qu'il nous garde demain, quand demain sera là. Le voyage du peuple d'Israël d'Égypte à travers le désert pendant 40 ans a mis en évidence la grandeur du pouvoir de Dieu. Il en est de même de nous. Dieu a fait faire ce trajet aux petits-enfants qui sont arrivés jusqu'au bout, alors que tous les hommes vaillants sont tombés, sauf deux. Un de nos plus ardents, mais constants désirs dans nos prières devrait être que Dieu nous donne de voir clair, que nos cœurs soient remplis de lumière, afin que nous marchions selon la lumière. Sinon, nous marchons sous l'impulsion de nos propres pensées et affections, ou bien sous l'influence du monde, et nous bronchons. Mais celui qui marche de jour ne bronche pas, comme a dit le Seigneur. Ce devrait être là notre prière continuelle. Alors, la paix et la joie de Dieu rempliraient nos cœurs. L'ensemble de cette lettre de Jude, où l'Esprit de Dieu nous a montré le développement du mal, fait penser à un passage d'Ésaïe où le mal est vu comme un fleuve qui emporte tout, auquel rien ne peut résister. Mais Dieu dit, « Moi, j'ai des ressources en moi-même, moi je vous tiendrai. » De sorte que, au lieu d'être apeuré en voyant son incapacité, le croyant devient un adorateur. C'est le triomphe de Dieu sur le mal. Qu'il est beau ce cantique des versets 24 et 25 à la fin de cette lettre. Il donne gloire à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Il vaut la peine d'entrer un peu par grâce dans ce chant de louange. Il n'y a qu'un seul Dieu comme lui, et c'est un Dieu sauveur. La vue de tant de mal fait apprécier qu'il y ait un sauveur, notre Seigneur. C'est lui l'auteur de notre salut. Dieu se place devant nous dans toute sa grandeur et un chant de joie s'élève pour lui dire tout ce que l'âme ressent. En effet, quel triomphe de Dieu! Combien notre Dieu est grand, qu'il est merveilleux, qu'il est puissant! On aimerait ressentir davantage toute la force des mots dont la parole de Dieu se sert. C'est ce qui arrivera bientôt, car il s'agit là du salut de la course, durant laquelle Dieu est capable de garder les siens pour les placer irréprochables devant sa gloire, avec abondance de joie. Les apostats sont tombés en chemin, mais la foi arrivera au but, et nous ne pouvons pas être satisfaits à moins que cela. C'est le point final de la course. Le Seigneur est là pour la gloire de Dieu. Comme homme, il est le consommateur de la foi. Il a fini. Dieu désire nous rendre conformes à son Fils. Pendant la course, Dieu est capable de nous soutenir. Et c'est pourquoi on a même dit que les saints qui délogent ont plus de bonheur que les saints qui seront transmués, parce que les saints qui délogent passent par le chemin où Christ est passé. Il a parcouru ce chemin qui aboutit à la gloire. Il y est arrivé, et nous devons avoir les yeux sur lui pour que nous puissions arriver aussi. Il est le modèle dans toutes ses perfections. Cette pensée que le terme final de la vie chrétienne s'achève dans la gloire produit chez l'apôtre au moment même la louange. C'est ce qui se réalise dans les saints. Si nous contemplons, nous louerons, nous anticiperons notre arrivée. Cette louange n'exclut pas le sentiment des difficultés et des combats de toutes sortes. Mais on peut louer avec la conscience que Dieu a le pouvoir de nous faire entrer. Et, en attendant, la joie de le voir bientôt compense la peine, les larmes même. Dieu aime cette louange et la produit dans nos cœurs par son amour. Un Dieu si grand, si élevé, si majestueux, et heureux de la trouver dans nos bouches et nos cœurs. Psaume 22, verset 3.
Il habite au milieu des louanges d'Israël.
Sans doute, c'est sa grâce qui produit cela, mais c'est nous qui l'exprimons. Il est extrêmement doux et grand de penser que Dieu nous a choisis pour que le ciel soit rempli de l'odeur du parfum. Cela réalise la parole de Jean 4.
Le Père cherche des adorateurs.
Il en a maintenant. Bientôt nous serons parfaitement heureux et toutes les bouches seront à l'unisson. Dans l'espace immense que le chant nouveau toujours recommence autour de l'agneau. Le cantique que nous chanterons là-haut ne sera pas différent de celui que nous chantons ici-bas. C'est le même. Toutes les défaillances individuelles, collectives, tous les assauts de l'ennemi sont dans le temps. La joie, le repos, la gloire sont pour toujours. L'heureuse éternité est à nous.